Disons que la batterie roule.
Oui.
Le rideau se lève.
Bien.
Toi, tu vas te préparer par là.
Oui.
Moi, je vais par là. Et le spectacle commence.
Ah,
ah non, non.
Les radios francophones publiques présentent Charles Aznavour, sur ma vie, une émission de Francis Legault.
Sur France Inter.
Je n'ai pas de vie privée évocable. C'est pas difficile. Quand on lit les journaux, enfin certains magazines, et même des magazines qui se disent sérieux, vous avez toujours un petit scandale quelque part. Je n'en ai pas. Dieu merci, j'en ai pas. Puis je peux pas en avoir. Il pourrait venir chercher, il trouverait rien du tout. Moi, je suis marié depuis 38 ans. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je crois que j'ai bien géré ma vie. J'ai fait quelques folies quand j'étais jeune, mais quelles folies! Les folies qu'on faisait actuellement, c'était pas les folies. C'était les folies de jeunesse, c'est pas la même chose. Bon, on prenait une bonne brasse, comme on dit. Et puis, on se couchait tard. On rencontrait des jolies dames. Mais ça, c'est le lot de tous les jeunes. Et ceux qui ne le font pas, sont pas jeunes. Mais j'ai pas de reportage important. Je n'intéresse pas la presse. Je n'intéresse la presse que lorsque je me produis. Et c'est exactement ce que je voulais.
Rien d'évocable. Rien pour intéresser la presse. Vous êtes bien certain de n'avoir rien oublié? Allez, allongez-vous, monsieur Aznavour. Nous allons remonter le temps. Explorer l'inconscient de vos archives pour mieux vous connaître, vous découvrir sous toutes vos coutures. Charles Aznavour comme une radiographie. Non, je n'ai rien oublié.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prends la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé. La coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Marié, moi, allons donc. Je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté. Et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible. Si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi qui n'ai rien oublié.
Sur le récamier de l'animatrice Christiane Charette, Charles Aznavour parle de l'autocritique.
Charles Aznavour, comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à soi-même? Vous nous apparaissez comme quelqu'un qui est resté terriblement fidèle à lui-même, mais en même temps, pour continuer à évoluer, à créer et à ne pas s'encrouter, ce que vous semblez avoir très, très bien réussi.
On fait son autocritique. Il faut absolument faire son autocritique, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que le succès. Le succès est une chose très dangereuse parce que le public vous dit toujours que vous êtes le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, etc., etc. Bon, moi, je savais bien que j'étais pas le plus beau, je savais bien que j'étais pas le plus grand, je sais bien que j'avais pas la voix la plus merveilleuse, donc je me suis fait toujours mon autocritique.
Alors, l'autocritique, donc, c'est quoi? C'est votre premier instrument pour avancer?
Ça l'a été. Ça l'est moins, bien sûr. Mais ça l'a été d'une manière très importante. Lorsque j'ai débuté, je passais dans une boîte à Paris qui s'appelle La Villa d'Est. Il y a un journaliste connu qui est venu et qui a fait un article où il a expliqué que j'avais dans la loge 14 personnes qui disaient oui à tout ce que je disais, qu'on buvait du vin rouge en coulisses et qu'en fait j'étais le centre du monde sans être un personnage très important. Quand j'ai lu cet article le lendemain, j'ai changé ma manière de voir les choses et ma manière de vivre.
Ma sœur, c'est mon équilibre. Elle a toujours été mon équilibre. Elle a toujours eu une vision très, très sûre. Elle fait partie de ces gens. Elle est la seule d'ailleurs à me dire le matin, quand je me réveillais, elle me disait « Est-ce que tu t'es réveillé Charles ou est-ce que tu t'es réveillé Aznavour ?» Parce que si tu t'es réveillé Aznavour, je m'en vais.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Aznavour?
Ben, y a des moments où on s'apparente à son personnage. Il y a des moments où le matin, quand on se réveille, on n'a peut-être pas tout à fait le même comportement simple qu'on devrait avoir avec sa famille. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, c'est malgré soi. Et elle m'a toujours remise en place. pendant des années. Ce qui fait que maintenant, si j'ai un certain naturel, je le dois à ma sœur.
Moi, je crois qu'il faut connaître le poids des mots. Il y a le mot humble, il y a le mot modeste. Alors, je suis humble, mais je ne suis pas modeste. La modestie, c'est un peu de la connerie. Mais l'humilité, c'est tout à fait normal pour un être humain. C'est tout, au contraire, l'humilité, je le dois à ce qui m'est arrivé, aux gens qui me voient, aux forces qui m'ont poussé jusqu'où je suis arrivé, au peuple dont je suis issu, au pays qui m'a reçu. Bon, ben, tout ça, je me dois d'être humble. Mais modeste, ah non, j'ai trop bien travaillé pour.
Dans le quartier de ma jeunesse, fallait savoir parer au coup. Vivant sur mes gardes sans cesse, me conduisant comme un voyou. Je défendais mon existence en pensant que ça changerait. Car même graines de violence, un jour peut fleurir en bouquet. J'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat. On ne peut être, ce me semble, plus heureux que moi. Les coups que l'on donnait bien sûr n'étaient pas tous très réguliers. Si j'en ai pris plein la figure, j'en ai rendu sans discuter. Bien qu'étant sur la défensive, bien qu'étant toujours aux aguets, j'ai vu une attaque si vive que je n'ai pas pu y parer. J'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat. On ne peut être, ce me semble, plus heureux que moi. Je ne croyais pas à la chance, je ne croyais qu'en mes deux coins. Et ne faisais pas plus confiance aux femmes qu'aux curés du coin. Et pourtant il faut bien le dire, pour une fille du quartier qui ne possédait qu'un sourire et un corps assez bien roulé. J'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat. On ne peut être, ce me semble, plus heureux que moi. Me voilà pensant à l'église, me voilà prête à me ranger. Je sens mes mains qui s'humanisent, mes poings s'ouvrent pour caresser. Tout en moi cherche à se détendre, la brute est prête à s'adoucir. Mes lèvres cherchent des mots tendres et d'autres lèvres pour s'unir. J'ai les mains qui tremblent, j'ai le cœur qui bat. On ne peut être, ce me semble, plus heureux que moi.
Charles Aznavour, si je vous dis coquet, vous pensez à quoi ?
Ben, j'étais le premier à mettre de la fourrure, par exemple. Et puis les vestes de couleur, hein, ça, les couleurs de toutes les couleurs. Comme je voyageais beaucoup et que j'aime les matières. Hein. Alors, une belle soirée, c'est vraiment très très beau. Alors j'allais en Thaïlande, j'allais dans des coins comme ça où il y avait des soies sauvages extraordinaires et épaisses. Et un jour, je me suis dit, et si on faisait des vestes avec ça ? Et j'ai porté les vestes. Et puis, je me souviens, je suis rentré des États-Unis une fois où les gens s'habillaient plus colorés que nous, mais des chemises, hein, et des pantalons. Et j'ai dit à mon limité de Lapidus, tu vas me faire des costumes en jeans de toutes les couleurs. Il a refusé. Il m'a dit, non, je ne peux pas faire ça, tu ne te rends pas compte. Moi qui fais de la flanelle, je dis, tu vas me faire des costumes. Et il m'a fait finalement, sans mettre sa griffe, il n'a pas voulu mettre la griffe, il m'a fait 6 costumes. Mais quand je dis les 6, il y avait vert, bleu, rouge, jaune. Des bleus, il y en avait 2. Hein. C'est extraordinaire, les couleurs. Et quand on me regardait, les gens avaient l'impression qu'ils regardaient un projecteur trop fort, ils plissaient un peu les yeux. Et je passais pour un excentrique. Disons que moi, je n'invente rien, mais j'ai l'impression que je suis un petit peu en avance sur le goût.
Vous avez même eu un prix comme l'homme
le mieux habillé, du monde. Oui. Ça paraît curieux. Hein.
C'est un des rares prix que vous ayez eu.
Oui, j'ai pas été très primé, c'est vrai. Mais il y en a qui ont eu des prix, mais moi j'ai fait la carrière.
France Inter.
Charles Aznavour, vous chantez l'amour depuis plus de 50 ans. Au micro de Denise Bombardier, vous avez confié.
Vous dites dans votre livre autre chose au sujet de vos amours. Vous dites que vous avez toujours eu le goût des amours dévastatrices, des ouragans qui passent.
Oui. Oui, parce que ça vous donne l'impression de vivre. Finalement, quand on se bat,
quand on se bat, enfin quand on se bat amoureusement, non pas quand on se bat, se jeter les choses à travers la figure, ça renouvelle le sang. Ça donne un intérêt particulier, ça donne un sel à l'amour. Ce qui fait que les réconciliations sont toujours plus belles.
Avez-vous été plus souvent le combattant que le combattu ?
J'ai été le vainqueur et le vaincu.
Mais vous laissez quand même entendre que vous avez été souvent vaincu.
En amour, finalement, on est toujours vaincu. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de vainqueurs en amour. Ou alors, le vainqueur en amour est celui qui, finalement, n'est pas tellement un amoureux. Comme on dit vulgairement, on laisse toujours des plumes en amour.
Lui, il t'observe du coin de l'œil. Toi, tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses prendre à son jeu. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je remarque toute chose. Et moi, dans mon coin, je ronge mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couve fiévreusement. Toi, tu l'approuves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin cette angoisse qui m'étreint. Lui te regarde furtivement. Toi, tu bavardes trop librement. Lui te courtise à travers moi. Toi, tu te grises, ris aux éclats. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, j'ai le cœur au bord des larmes. Et moi, dans mon coin, je bois mon chagrin, car l'amour change de main. Oh, non, non, c'est rien. Peut-être un peu de fatigue. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Non, non, j'ai passé une excellente soirée.
Le respect, Charles Aznavour, c'est important pour vous?
Une chose qui nous énervait, Piaf et moi, parce que ça nous énervait tous les deux. Il y avait toujours des gens qui venaient nous voir, qui faisaient 30 cm de plus que nous, qui étaient beaucoup moins connus que nous, et ils nous tapaient sur l'épaule en disant « Alors, ça va ?» Et elle faisait « Mais je le tuerais, celui-là » Et ça nous a toujours énervés. Alors, on aime être pris au sérieux. On ne veut pas que notre taille soit une raison d'intimité qui n'existe pas. Et comme ceux qui arrivent tout d'un coup et qui tout d'un coup vous tutoient. Piaf a mis longtemps pour me tutoyer et je ne l'ai jamais tutoyé. Alors il y a des choses qui me dérangent. J'aime bien être pris au sérieux.
Charles Aznavour, que lisez-vous?
Il y a le Reader Digest qui a beaucoup aidé des incultes. Moi, je suis un inculte, mais je ne me sers pas de ça. Je lis. Et je l'avoue, franchement, je ne retiens pas beaucoup ce que je lis. Mais je suis sûr que ça s'imprime dans ma tête. Alors je relis souvent les mêmes livres. Dos Passos, Céline. Écoutez, j'avais jamais lu Saroyan. Moi, origine arménienne. Et mes parents le connaissaient en plus, jamais. Dernièrement, ils viennent de sortir une collection. Dans la foulée, j'en ai lu trois. Mais il y a des tas d'écrivains que je n'ai pas lus. Moi, je n'ai jamais lu l'Anatole France. J'ai lu plein de Victor Hugo. J'avais lu surtout les œuvres sur le théâtre. Et emmerdante, souvent. J'avoue que moi, Aristophane, etc., c'est vrai que j'ai lu. Je me suis forcé quand même, là. J'avais quand même lu Proust. Et ce n'est pas facile. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est facile à lire Proust. Vous prenez Proust dans votre lit, comme je fais habituellement, et bien souvent, il y a une sorte de monotonie qui joue. Il y a un ton qui est égal, comme c'est d'une beauté formidable, surtout pour un auteur, lire Proust, c'est formidable. Mais je ne pouvais pas lire beaucoup de chapitres en même temps. Mais je l'ai lu, il y a 7 bouquins, c'est pas... Hein. Lorsque j'ai rencontré Cocteau, je lui ai demandé de me donner une liste de bouquins qu'il m'a donné. Bon, je les ai lus à l'époque, et j'avais perdu ma liste. Et puis là, dans le livre qu'a écrit Carole Wesweller, elle me l'a envoyé en me disant « La liste que vous cherchez, elle est dedans. » Alors, j'ai retrouvé ma liste. Maintenant, ce que je fais, je lis le Figaro littéraire chaque semaine pour savoir ce qui sort. Je regarde les émissions à la télévision, les émissions littéraires. Et j'ai un principe qui amuse beaucoup mes amis. J'achète les livres au maître. Je vais acheter une rangée de livres comme ça, que j'emmène chez moi et que je mets dans ma bibliothèque et que je ne lis pas tout de suite, je les lis quand je veux. Parce qu'en avion, cette grosseur-là, c'est Paris-Nice, cette grosseur-là, c'est Paris-New York, etc. Ah, je me suis fait un mode de vie qui est tout à fait particulier.
Quand en plein été, vos tricots collés dessinent toutes vos valeurs faisant de vous des... Zondine, je sens malgré moi se découvrir mes canines. Oh, fille d'aujourd'hui, femme de demain, en voyant rouler la boîte à trésors étanche de vos pantalons qui cernent si fort vos hanches, j'ai l'âme, l'esprit, le cœur, le corps qui flanche. Oh, fille d'aujourd'hui, femme de demain, je me sens inexorablement attiré par vous comme par un aimant.
Pourquoi cette attirance pour la femme plus jeune, Charles Aznavour?
J'ai toujours pygmalionné pas mal. J'ai toujours eu le complexe de Pygmalion. Et à partir du moment où la femme était construite, elle m'intéressait moins.
Ça veut dire que c'était toujours des femmes plus jeunes?
Ah, toujours très très jeunes, oui.
Vous aimez les femmes jeunes pour pouvoir les dominer, pour pouvoir les diriger?
Pas pour les dominer, non. J'aime les femmes jeunes pour leur apprendre des tas de choses.
Toujours Pygmalion, le petit côté.
Pygmalion. S'habiller, se maquiller, changer de coiffure, enfin, lui donner sa véritable personnalité. Et puis j'aime les femmes jeunes aussi parce qu'elles m'apportent... Elle m'apporte un vent de folie dans ma vie que je n'aurais pas de par mon âge.
Avec Liza Minnelli, au Palais des Congrès, clin d'œil à My Fair Lady, right. Peut-être.
Ça, c'est la mélodie.
That's the melody.
Oui.
Okay.
Maintenant, le texte. Hein?
The words.
Oui. Ton nom.
Ton nom.
C'est un mot merveilleux.
C'est un mot merveilleux.
Un appel qui jaillit.
Un appel qui jaillit.
Juste. Et le souffle en murmure.
Et le souffle en murmure, murmure.
Ah, oui, murmure. C'est très léger. Aboutit à ce cri.
Boutique à ce cri.
Non, pas la boutique. La boutique, c'est dehors. Et c'est demain, les boutiques. J'en suis aboutit à ce cri. Hein.
Alors,
on recommence.
Ok.
Ne me fais pas rire. Alors,
ton nom,
c'est un mot
merveilleux.
À boutique.
Charles, this is gonna. I can't do this. I'm too nervous. I'm never gonna be able to sing that in French. I can sing it in English. I can't sing it in French. My hair is gonna fall out.
Toujours en 1970.
D'abord, pour commencer, à partir du moment où une jeune femme passe dans le lit d'un monsieur qui fait ce métier, elle croit que le lendemain, elle a le feu sacré ou qu'elle sait exactement comment il faut marcher sur une scène. Elle commence déjà le lendemain à donner des conseils. Bon, ça, il faut le savoir. Il y a des amis, il y a des maris qui se sont laissés prendre à ce petit jeu. Les femmes sont devenues leurs impresaries, sont devenues leurs agents de presse. C'est elles qui mènent tout, c'est tout. Elles couvrent la porte. Finalement, ce sont elles les vedettes. Quand elles arrivent, on dit « Oh, madame un tel !» Et son mari, qui, à l'occasion, est aussi tête d'affiche. Bon, les femmes ont un petit peu ce défaut. Bon, à travers ça, à travers leurs défauts et souvent à travers leur goût, parce qu'elles étaient plus jeunes que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, tous les défauts de ces amours que j'ai connus, malgré moi, je les ai traduits dans les chansons.
Vous êtes chère grande artiste, la plus charmante des amies et l'hôtesse la plus exquise que n'ait jamais connue Paris. Chez vous, c'est toujours table ouverte. On y côtoie le monde entier, des diplomates et des poètes, mais les mondanités passées, libérées de ton enveloppe. Tu deviens dans l'intimité la plus formidable salope qu'une mère n'ait enfantée. Je sais que vous, je sais que tu, vous que j'admire, toi qui m'attire, je sais que vous, je sais que tu es respectable, mais sans vertu.
Et votre fille dans tout ça?
Ma fille, pour moi, c'est une grande complice. Elle a été complice à l'époque où j'étais pas marié, et puis maintenant, elle est complice de la même manière, mais enfin pour différentes choses.
Parce que vous avez toujours été très liés, tous les deux, ou si elle vous a échappé à un moment?
Elle m'a échappé.
Je pense à une de vos chansons.
Non, elle m'a échappé entre 17 et 18 ans à peu près, mais ce qui était tout à fait normal, et je m'y attendais parfaitement. C'est normal. C'était d'ailleurs en plus le moment où la jeunesse avait une certaine révolte contre la loi établie, la loi familiale établie, je l'ai laissé faire. Je l'ai non seulement laissé faire, mais je l'ai poussé à partir. Ça a duré à peu près 12 mois. Et puis au bout de 12 mois, elle s'est totalement rapprochée parce qu'elle s'est rendue compte que j'étais un père curieux finalement, un père qui l'amusait autant que la fille m'amusait. Il faut faire joujou avec ses parents, comme les parents font joujou avec les enfants quand ils sont tout petits. Mais il faut laisser grandir les enfants, à mon avis, il faut laisser grandir les enfants et faire joujou avec eux, mais par rapport à leur âge.
Mais par exemple, votre fille, quelle était sa place au moment où vous, en tant qu'être humain, vous avanciez au milieu de plusieurs femmes?
France Inter.
Sa place?
Oui.
La complicité. Il fallait qu'elle soit complice. J'étais un homme seul, je vivais avec mes enfants, il fallait que mes enfants soient complices.
Il n'y a pas de jalousie de la part de votre fille?
Mais non, il ne pouvait pas y avoir de jalousie, elle savait exactement à quoi s'en tenir. Elles aimaient plus ou moins les personnes avec lesquelles je vivais, mais je tenais compte du rapprochement de mes enfants. C'est-à-dire que je n'aurais pas épousé une femme qui n'aurait pas été totalement admise et par ma famille et surtout par mes enfants.
Votre famille était importante dans le choix d'une femme?
Non, pas dans le choix d'une femme. Dans la bague au doigt, c'était important. Dans le choix d'une femme, pas du tout.
Mais dans le mariage.
Dans le mariage.
C'était important.
Ah, c'était très important.
Pourquoi?
Mais même mes amis, c'est très important. On ne se marie pas qu'avec une femme. On se marie avec une femme qui épouse vos défauts, vos qualités, vos amis, votre famille, votre manière de manger, l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous vous couchez.
C'est pas réciproque?
Ça peut pas être réciproque. C'est la femme qui épouse la vie de son mari. Surtout dans mon cas. Elle a épousé mon métier aussi, il fallait qu'elle épouse mon métier. Admettez que j'ai épousé une femme qui n'aimait pas tellement la musique, c'était pas possible, il fallait qu'elle aime la musique, elle était forcée d'aimer la musique. Elle était forcée d'aimer le cinéma, d'aimer le théâtre, d'aimer sortir pour certaines choses, et de rencontrer des gens très bavards, souvent qui disent la même chose.
Un jour, le bon Dieu, le front soucieux, se dit, mon vieux, ton grand ciel bleu n'a rien de rose. Plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il manque ici un paradis. Ou autre chose. Il fit tant et bien avec ses mains, et presque rien en un peu moins d'une semaine, qu'il avait créé les champs, les prés, l'hiver, l'été et aussi les formes humaines. Il les convoqua, leur dit, voilà, avec tout ça vous n'avez qu'à vivre tranquille. Je vous en fais don, tout y est bon, mais attention, à condition d'être docile et de me faire la promesse de ne pas toucher au pommier. Non, de ne pas toucher au pommier. Non, non, de ne pas toucher au pommier. Le bon Dieu partit, Adam se dit, ben, mon ami, t'es mieux ici que dans une usine.
T'as une poupée, une beauté qui est roulée comme pour tourner à la Goldwina. Et ce brave Adam passait le temps en souriant béatement, comme bien des hommes, sans avoir idée que sa moitié puisse flirter avec un représentant en pomme. Ève trouvait charmant et affolant ce beau Tarzan nommé Serpent. Dit à Sornette, qui sut l'envoûter, la fasciner, la faire croquer dans la pomme et perdre la tête, au point d'oublier sa promesse de ne pas toucher au pommier. Et non, de ne pas toucher au pommier, pas toucher au pommier. Tout commence ici. Ève en folie prit un beau fruit et le tendit à son petit homme. Et ce brave Adam, toujours confiant, avait le dent mordi dedans comme une pomme. Lorsque Dieu l'a pris avec mépris, il leur a dit plus de paradis, non. Je vous condamne à vivre et lutter, à travailler hiver, été, et tout ça c'est à cause d'une femme. C'est ainsi depuis que va la vie. Même aujourd'hui l'homme est trahi dans l'ignorance. Et le vieux pommier presque oublié est remplacé par le péché de complaisance. Car les femmes tiennent leur promesse de ne pas toucher au pommier. Non, de ne pas toucher au pommier. Car elles préfèrent goûter au péché. C'est si doux, c'est si doux de goûter au péché. Ah, c'est doux de goûter au péché, de goûter au péché.
Début des années 70, avec la journaliste Andréane Lafont, vous expliquiez votre conception de la femme.
Pour vous, une femme, femme, qu'est-ce que c'est? Une femme véritablement femme?
C'est 80% de défauts. C'est 80% de défauts qu'on aime.
C'est-à-dire?
Ben, vous savez ce que c'est en amour. En amour, quand on rencontre une femme, quand elle lève le petit doigt comme ça au début, on trouve ça merveilleux. C'est merveilleux comme elle lève le petit doigt. Et quand on ne l'aime plus, on dit cet imbécile a toujours levé le petit doigt de la même manière, ça m'énerve. Alors je crois qu'au départ, une femme, femme, c'est 80% de défauts, donc 80% de féminité.
Mais vous trouvez quand même quelques qualités chez les femmes. Les 20%, mais qu'est-ce que ça peut être?
Les défauts des femmes, pour moi, ont toujours été des qualités, d'abord. Et puis il y a les 20% qui sont ce qui est une femme et ce qui n'est pas joli à dire pour un homme. C'est-à-dire cette espèce de fidélité, la cuisine. Qu'est-ce qu'on aime dans une femme? Je ne parle pas du physique et du moral, ça c'est une chose tout à fait différente. On peut très bien aimer une femme qui n'est pas jolie. Hein? On peut aimer une femme qui est une chipie. Non, moi j'aime les défauts des femmes parce que la première chose que j'aime chez une femme, c'est sa féminité. C'est la féminité. Une femme doit savoir se plaindre, elle doit savoir pleurer, elle doit avoir tous les petits trucs qui font qu'un homme reste accroché en disant « si je m'en vais, elle va mourir, vanité, elle ne va jamais mourir, mais on veut penser qu'elle va mourir si on partait ». C'est ça que je veux chez une femme.
Mais il n'y a pas un petit côté de duperie chez la femme quand elle arrive à vous connaître? Elle joue le jeu, pour vous. Ça fait partie des qualités ou des défauts?
Ah non, ça fait partie des défauts qui sont des qualités pour moi. Je veux qu'une femme joue le jeu. Et parce que vous croyez que les hommes ne jouent pas le jeu? Ils jouent le jeu, les hommes, c'est pareil. On a toujours l'impression que l'homme qui rentre à la maison, l'homme le plus fort du monde, s'il se retrouvait devant un homme plus fort que lui, il courrait peut-être très vite, mais sa femme croit toujours, elle joue le jeu de penser « mon mari, c'est un homme très fort ». J'y donnais un coup de poing à un tel, il aplatirait. Quand ça se trouve, ce monsieur est une souris, vous comprenez? On joue le jeu des deux côtés, on doit jouer le jeu des deux côtés. C'est quand cette hallucination de l'amour, cette invention de l'amour n'existe plus que ça n'est plus agréable. C'est fini.
Reste, reste encore avec moi sur mon corps. Dans mes bras enlacés, essoufflés, assouvis, étourdis, reste au chaud, alangui dans l'enclos de la nuit, sur mon cœur, sans pudeur. Ta faim.
L'étendue reste là, sans un mot sur ta joie, sur ma peau.
Comme tu me disais, Baudron, tu vas loin, je disais, je vais pas loin du tout, je dis, je raconte la vie telle qu'elle est. Je ne dis rien de pornographique, je n'ai jamais rien dit de pornographique. Mais Pierre Facoupé, dans cet gars, l'avait coupé, et, c'est drôle, je mords dans ton épaule. J'ai dit, mais on vous a jamais mordu dans l'épaule? Il m'a dit, mais ça ne regarde personne. Bon, très bien. Mais, Gilbert, quand on a écrit ensemble une chanson, il y avait... Il y a le mot « jouir » dedans. Ils l'ont enlevé. Ils avaient peur des mots. Alors je disais toujours, mais enfin, quand vous lisez un livre... Ah oui, mais c'est pas pareil, c'est pas en public. Mais si le livre fait 2 millions de ventes, c'est comme 2 millions de personnes qui sont venues dans une salle. C'est dur, 2 millions de personnes, hein, il en faut du temps pour ça. Là non, il n'y avait rien à faire. Et moi, j'étais pour dire les choses telles qu'elles étaient. Et puis par la suite, j'étais beaucoup plus loin, parce que la prostate, le machin, tout, j'ai tout mis après. J'ai tout mis parce que, avec ce que j'entendais, je voyais à la télévision, je me disais quand même, je suis toujours en dessous, hein. Je suis le petit Lord Fauntleroy, là.
Elle a le swing au corps, le rythme dans la peau. Chaque nuit, elle sort pour filer illico vers un lieu sans confort, un humide camon où ça balance à mort. Le jazz coule à flot, la garce. Elle a le swing au corps, le rythme dans la peau, et ses joues se colorent quand un brume saxo, alto bien ténor, flirte avec le piano qui plaque des accords. Elle trouve ça beau. Vraiment beau, la garce.
Autre confidence accordée en 1970 à Denise Bombardier.
France Inter.
Il y a actuellement ce qu'on appelle une révolution chez les femmes, en particulier chez les femmes américaines. Il y a des mouvements féministes. On dit que la femme de plus en plus revendique qu'elle veut s'émanciper.
Oui,
Est-ce que vous y croyez, vous, à ça?
Oui, j'y crois. Du point de vue social, j'y crois. Mais enfin, du point de vue... familial, je trouve que ça sera très difficile parce que je me demande si sa fausse faiblesse, car les femmes sont fortes, si sa fausse faiblesse n'est pas son plus grand atout. Je me demande si les larmes ne sont pas importantes chez une femme pour pouvoir avoir tout ce qu'elle désire et pouvoir mener son mari par le bout du nez. Mais si l'émancipation, c'est qu'une femme, se croyant l'égale de l'homme, je parle ni physiquement, ni intellectuellement, mais se croyant l'égale de l'homme à un autre point de vue, prend l'éthique des hommes, ça va être affreux. Ce qui est important chez une femme, c'est sa féminité. Alors à partir du moment où une femme va devenir truck driver, ça va être gênant quand même. Vous voyez, une femme conduire un camion et ayant les mêmes responsabilités qu'un homme, une femme dirigeant une entreprise, ayant l'éthique et les stigmates d'un homme, ça va être terrible. Il faut laisser à la femme tout ce qui fait la femme.
Mais est-ce qu'il faut pour ça la laisser dans sa maison?
Ah non, 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 mais moi, je ne suis pas pour laisser sa femme dans la maison. Je crois au contraire qu'il faut qu'il y ait une énorme liberté. Mais entre énorme liberté, liberté, égalité et émancipation, il y a une nuance que je ne saisis pas très très bien. Finalement, l'émancipation me semble être le fait que la femme veuille diriger aussi bien les affaires du pays, pourquoi pas aussi s'engager dans l'armée. Moi, j'ai épousé une femme qui est suédoise. Les Suédois sont des gens totalement libres. Mais je n'admettrai pas que ma femme me dise tout d'un coup « Je vais faire tel métier qui est le métier d'un homme, je vais diriger une usine, ça ne me plairait pas du tout. » Et qu'elle rentre à la maison au dernier moment, qui va faire la cuisine?
Peut-être vous, non?
Mais je fais parfois la cuisine. Je le fais quand ça m'amuse.
Remords, conversion ou pied de nez aux intervieweuses Andréane Lafont et Denise Bombardier? Qui sait? Enfin, 1997, c'est le miracle. Charles Aznavour chante le droit des femmes. Alléluia!
Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus
je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Bien les choses ont évolué depuis que Rome voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir comme. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Le droit des femmes, le droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafoués et cocus l'inacceptable. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable. Les jeux sont faits, rien ne va plus, carte sur table. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus. Je le proclame,
je le proclame,
ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Femme poupée, femme au foyer, femme convexe, toutes ces femmes libérées de leur complexe parlent de choix, parlent d'idées comme de sexe. Alors messieurs, ayons fair play, le bon réflexe. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, pousser un landau sur les lieux mêmes où tous ses copains font le beau devant un crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on aime. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Aujourd'hui le monde a changé, tout passe et casse. La femme dans la société a pris sa place. Pilote, écrivain, PDG et puis j'en passe. Comme finir à l'Élysée un jour de grâce. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut.
Ces dames
se sont battues et ont eu
le droit des femmes
et ne le lâcheront plus.
Échange de bons procédés, l'homme peut faire quelques-uns des petits métiers, des ménagères. On peut le voir marcher sur les grandes artères, fardé, peu vêtu, racolé, ses congénères.
Le droit des femmes,
le droit des femmes
n'est plus.
Je le proclame,
ce que jadis il fut.
Ces dames
se sont battues mais ont eu
le droit des femmes
et ne le lâcheront plus.
Le droit des femmes
et ne le lâcheront plus.
Charles Aznavour, vous adorez les femmes. Alors pourquoi avoir chanté l'homosexualité à la première personne ?
C'était en 72 que j'ai écrit la chanson. Bon, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Il y a des mouvements gays dans le monde entier. Et je me suis dit, je vais le faire. Donc j'avais l'habitude, je ne l'ai plus. J'avais l'habitude, j'avais un petit cénacle autour de moi et je leur chantais les chansons, des nouvelles. Et je le faisais toujours sans qu'ils soient devant moi, mais derrière. Parce que la réaction, elle est dans l'air. Et quand on est arrivé, comme ils disent, il y a eu un... Alors là, il y a eu un froid. J'ai senti vraiment que c'était glacial. Il y en a un qui a fait « Et qui va chanter ça ?» J'ai dit « Moi ?» Mais il y a eu un autre silence. Et il y en a un qui a fait « Tu vas faire une annonce ?» En plus, il est homosexuel, ce qui m'a dit ça. J'ai dit, pourquoi? Tu crois que je vais rentrer sur la scène et je vais dire, vous savez, moi, je suis pas peiné, mais j'ai fait une chanson, alors faut pas croire que c'est moi. Je vais avoir l'air de quoi raconter des conneries pareilles. J'ai dû venir, je vais chanter ma chanson, puis ça va s'arrêter là. Et il était contre. Donc j'ai chanté la chanson. Et en plus, le geste que j'ai dedans, c'est lui qui fumait avec sa cigarette et la cendre qui lui est tombée dessus. C'est son geste à lui que j'ai piqué. Ça a marché. Ils ont été très surpris. J'ai dit, mais le public est moins bête que vous ne pensez. Les gens ont toujours l'impression qu'ils ont affaire à des débiles. Pas du tout. L'homme le moins intelligent dans la salle est capable de bien comprendre une chanson. Parce qu'une chanson, ça rentre autrement. Ça rentre par les pores de la peau. Ça rentre pas par l'intellect. Le plus beau témoignage que j'ai eu, il y avait un couple de chanteurs qui s'appelaient en France Charpini et Brancato. Et j'ai rencontré Charpini chez Point, qui était donc le restaurant connu dans le monde entier à l'époque. Chez Point, il est venu les larmes aux yeux et il m'a dit, Charles, vous avez écrit l'histoire de ma vie. Et ça, je crois que c'est le plus beau témoignage que j'ai eu. Quand j'arrivais dans un restaurant d'Homo, et que la salle était bourrée, on faisait lever les gens, on me donnait la table. C'est l'hymne national, hein, quand même. Et j'étais ravi de ça, je trouve ça formidable.
J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie, une tortue de canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie, à l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez, on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre des attardés pour épater leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'ils croient être nous, et se couvrent les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazy, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires.
à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme haut, comme il dit.
Charles Aznavour, qu'est-ce qui vous émeut ?
Des riens. C'est curieux. Des réussites m'émeuvent. Tout d'un coup, je vois quelqu'un qui réussit, ça me met les larmes aux yeux. Une personne que je ne connais pas. Mais ça dépend d'où il vient, ça dépend comment il a réussi. Mais ça m'émeut, une belle réussite, ça m'émeut. Ça m'émeut autant qu'une chute, par exemple. Quand un artiste, on s'en préoccupe plus, ça m'émeut aussi parce que on est très ingrat avec les gens, vous savez. Bon, il n'a plus le même succès, mais on n'est pas obligé de l'ignorer. On n'est pas obligé de le mal recevoir. On n'est pas obligé de ne plus l'inviter. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Barclay. On le sait bien. Barclay a reçu tout le monde. Ça a été l'homme qui a reçu merveilleusement, en plus. Et quand les gens n'étaient pas invités, comment je suis pas invité chez Barclay? Comment peut-on faire? Bon, ces mêmes gens aujourd'hui, s'ils ont une invitation, ils oublient de l'inviter. Je trouve ça affreux. Voilà, ça m'émeut aussi.
C'était Charles Aznavour, Non, je n'ai rien oublié. Une production des radios francophones publiques, la RTBF, la Radio Suisse Romande, Radio France et Radio Canada. Narration et entrevue, Monique Giroux et Francis Legault. Ont collaboré à cette émission Serge Brideau, Janine Marc Peset, Yves Buy, Jean-Claude Arnaudon, Pierre Collard-Bovy et Daniel Giroir. Réalisation Francis Legault, assisté de Françoise Tremblay.